début du roman, premier chapitre. Voilà toute l'histoire. Elle se tut, comme un vent qui s'arrête subitement de souffler dans les arbres. Mais Adem Naït-Gassem continuait d'entendre la voix de sa femme qui cognait sourdement à ses tempes, tel un pendule contre un rempart. Pourtant, tout venait de s'évanouir autour d'eux. Le jappement des chiens, la brise empêtrée dans les plis du rideau, le crissement d'une charrette en train de s'éloigner. Puis, le silence. Le terrible silence qui s'abat lorsqu'on réalise l'ampleur des dégâts. Pendant longtemps, Adam demeura assommé, le souffle coupé, le cœur dans une tenaille. Il avait écouté Dalal du début à la fin, sans l'interrompre une seule fois. Qu'en avait-il retenu ? Quelques bribes qui déflagraient en lui, lointaines et confuses, deux ou trois mots insoutenables que son esprit rejetait comme des corps étrangers. Il se prit la tête à deux mains, ne sachant quoi faire d'autre. C'était sans doute le déballage auquel il s'attendait le moins. Comment croire à un aveu qui l'excluait et le concernait à la fois? Les larmes ruisselaient sur les joues de la femme, s'égouttaient de son menton, suintaient en taches grisâtres sur son corsage. Dalal ne les essuya pas. Elle était déjà ailleurs, les yeux rivés à la valise en carton qui confirmait le désastre. « Mais que me sors-tu là, Dalal ?»« Je suis désolé. » D'un coup, Adam constata qu'il n'y avait plus rien à sauver. Son bras s'emporta de lui-même et sa main s'abattit si fort que Dalal manqua de tomber à la renverse. Le visage projeté en arrière, un filament de sang sur la lèvre, Dalal refit face à son mari, les yeux obstinément fixés sur la valise. Adam considéra sa paume meurtrie, étonné par la portée de son geste. Il n'avait jamais levé la main sur une femme avant. « Mais ça n'a pas de sens !»« Je sais, » soupira-t-elle. « Non, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Autrement, nous ne serions pas là. » Il essaya de lui prendre les poignets, comme il le faisait parfois pour la rassurer ou la calmer. Elle se recula. « Est-ce que j'ai commis une faute envers toi ?»«
Ce n'est pas ça. »«
Alors quoi ?» Le cri la transperça de part en part. Elle rentra le cou, redoutant une autre gifle. « Je suis ton époux. J'ai le droit de savoir. » En vérité, Adam ne tenait pas à savoir quoi que ce soit. Cela ne ferait qu'enfieler les choses. Le miroir venait de se briser. Aucun argument ne minimiserait le drame. Certaines blessures atteignent la plénitude du malheur dès lors que l'on cherche à comprendre pourquoi ce qui a importé plus que tout au monde doit cesser de compter. « Explique-toi ! Explique-moi » Qu'attendait-il de plus ? Dalal avait dit ce qu'elle avait à dire. Il n'y avait rien à ajouter, rien à rectifier. C'était lui qui refusait de se résoudre au fait accompli. Ses accès de colère n'étaient que de pitoyables sursauts d'orgueil. Que s'est-il passé? Pourquoi maintenant? Ce fut tout ce qui lui vint à l'esprit pour sauver la face. Des questions misérables, tellement tristes et stupides qu'aucune réponse ne pourrait les soulager de leur frustration. Rien dans leur vie à deux, lui semblait-il, ne laissait prévoir une telle issue. De retour de son travail, Adam avait trouvé une valise à côté d'un petit sac à main dans le vestibule. Le soir était tombé. On n'avait pas allumé dans le couloir ni dans la cuisine. La porte de la chambre à coucher était grande ouverte sur Dalal, assise sur le rebord du lit. À la pâleur de son épouse, Adam avait pensé que quelque chose était arrivé à sa belle-mère, clouée au lit depuis une décennie des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il se trompait. « C'est ridicule, voyons. Tu es une femme mariée, responsable, adulte. Tu ne peux pas te permettre des écarts de conduite de cette nature. » Dalal joignit les mains entre les cuisses, les épaules contractées. Adam avait envie de la gifler encore et encore, de la cogner jusqu'à en avoir le poing en bouillie, de renverser le matelas sur lequel elle était assise, d'arracher les tentures, de mettre le feu à la maison. Il avait surtout envie que sa femme prenne conscience du chaos qu'elle s'apprêtait à provoquer. « Je suis navré, sincèrement.
« Mais enfin, regarde-toi, tu as complètement perdu la tête !»
L'avais-je jamais eu? Le bras d'Adem se leva de nouveau. Cette fois, Dalal ne chercha pas à se protéger, la joue exposée à toutes les foudres du ciel.
Tu me poignardes dans le dos depuis combien de temps ?
Tu as couché avec lui ?
Non.
Non ? Une seule fois, il a essayé de m'embrasser. Je lui ai dit que je n'étais pas prête.
Et tu veux m'attendrir avec ça ?
C'est la vérité.
Et quelle est la mienne ?
Qu'ai-je été pour toi pendant toutes ces années ?
Mais ça n'a rien à voir avec toi.
Mais dans ce cas, où est le problème ?
Je l'ignore. Il est des choses qui arrivent et qui nous dépassent.
Elle hissa enfin les yeux sur son mari, des yeux immenses qui faisaient rêver Adam naguère et qui lui paraissaient désormais aussi insondables que l'abîme.
Tu ne peux pas savoir combien je regrette le mal que je te fais.
Tu n'es pas obligé.
C'est plus fort que moi, confessa-t-elle, la voix ravagée de trémolos. J'ai essayé, je le jure, j'ai essayé de ne plus le revoir. Je me promettais, chaque fois que je rentrais à la maison, de laisser cette histoire dehors. Et au matin, je me surprenais à courir le rejoindre.
Le coup de grâce. Adam était anéanti. Tout lui parut dérisoire, les larmes de sa femme, les serments, les sacrilèges, les trahisons, les mots, les cris.
Est-ce que je le connais ?
Elle fit non de la tête, imperceptiblement.
Il est du village ?
Non.
Il s'appelle comment ?
Mais quelle importance !
C'est important pour moi.
Mais ça changerait quoi ?
Parce que tu trouves que rien ne va changer. Tu me balances ton vomi à la figure, sans préavis, et tu crois que demain sera pareil au jour d'avant ?
Tu me prends pour qui ?
Pour une branche qu'on écarte pour poursuivre son chemin comme si de rien n'était ?
Je suis de chair et de sang.
Tu n'as pas le droit de me faire ça.
Je suis ton mari, et tu es mon épouse.
Il y a un contrat moral auquel on ne déroge pas, des limites que nous ne sommes pas autorisés à franchir.
Mais reprends-toi, bon sang.
Dis-moi que tu me fais marcher, que tu ne penses pas un mot de ce que tu racontes.
Je suis navré.
Elle attendit la réaction de son mari, n'importe laquelle, inébranlable et stoïque.
Adam ne voyait pas ce qu'il était possible de réparer.
Il est des turpitudes que l'on ne soupçonne pas, des faillites que l'on ne surmonte pas, des prières aussi atroces que les peines perdues.
Sa femme avait décidé de le quitter. Aucun recours ne semblait en mesure de l'en dissuader.
Tout venait de se figer dans la chambre, l'air, la colère, la souffrance, l'indignation.
N'en subsistait, en guise de déni, que l'hébétude grandissante en train de le démailler, fibre par fibre.
L'ampoule au-dessus d'eux se mit à clignoter avant de griller.
Il fit noir dans la maison, noir dans les cœurs, noir dans les pensées.
Adam ne percevait que son souffle en train de s'appauvrir, tandis que l'obscurité s'alliait au silence pour faire diversion.
Puis Dalal se leva, tel un esprit frappeur, empoigna la valise et le sac à main dans le vestibule et sortit de la vie de son mari.
Adam chercha un sens à son malheur, ne lui en trouva aucun.
Il resta longtemps effondré, et la tête entre les mains, à espérer que Dalal se ressaisisse et lui revienne.
Un moment, il avait pensé courir la rattraper, mais il avait craint de se couvrir de ridicule.
Le dernier autocar pour Blida était parti depuis des heures, et aucun train n'était prévu à la gare.
La porte de la maison demeura ouverte sur la nuit.
Adam n'eut ni le courage, ni la force de la refermer.
Lorsque l'évidence vous met au pied du mur et que l'on s'évertue à chercher dans l'indignation de quoi se voiler la face, on ne se pose pas les bonnes questions. On triche avec soi-même.
Adam se traîna jusqu'à la cuisine plongée dans le noir. Il n'alluma pas.
Peut-être s'estimait-il moins exposé dans l'hypothétique refuge que lui concédait l'obscurité.
À tâtons, il finit par mettre la main sur une bouteille de vin.
Après avoir bu sa peine jusqu'à plus soif et râlé sans parvenir à expurger la moindre des toxines qui ravageaient son être, il se mit à arpenter le couloir et les pièces.
Ensuite, il s'écroula quelque part et, ivre de l'ensemble des misères de la terre, il pleura toutes les larmes de son corps.
Sa sœur aînée, qui habitait à l'autre bout du village et qui passait le voir par hasard après avoir fait son marché dans le quartier, le trouva couché sur le lit, chaussures aux pieds, un oreiller sur la figure. Elle posa son panier par terre, jeta un coup d'œil aux alentours, remarqua que les étagères de l'armoire étaient presque vides.
Elle l'a finalement fait, soupira-t-elle.
Tu étais au courant ?
Mon fils les avait vus derrière la gare il y a quelques jours. Adam se découvrit, d'un geste hargneux. Le masque froissé qui lui servait le visage ressemblait à un morceau de ruine.
« Et tu ne m'as rien dit ?»«
Je pensais pouvoir la raisonner. »«
La raisonner ?»«
Je l'avais mise en garde. » »« Elle m'a dit que ça n'avait rien de sérieux, que c'était juste un ami d'enfance qu'elle avait connu du temps où sa mère travaillait chez les Gautier. »« Elle m'a juré de ne plus le revoir. » »«
Sauf qu'elle l'a revu. »
La sœur s'assit lourdement sur le banc près du lit, en se triturant les doigts de gêne. Sa main tenta d'atteindre l'épaule de son frère. Adam l'esquiva. Il ne supportait pas qu'on le touche. Il avait l'impression d'être une fracture ouverte.
« Ce n'est qu'une femme, Adam. Une de perdue, 10 n'attendent qu'un signe de toi pour la remplacer, » dit-elle pour tenter de le réconforter.
« Elle m'a fait mal. Mais ce sont les choses de la vie. Tu dois faire avec.
Et pourquoi moi ? Pourquoi veux-tu que ça n'arrive qu'aux autres ? Mais qu'ai-je à voir avec les autres, bon sang de bon Dieu ? »
La sœur émit un hoquet dédaigneux. Elle décréta, sentencieuse, « Dieu n'est disponible que pour les morts, Adam. Quant aux vivants, ils n'ont qu'à se démerder. » Elle reprit la main de son frère. Adam la lui céda. Il n'eut pas la force de résister.
« Je me sens si sale, » gémit-il.
« Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Tâche de te ressaisir si tu ne tiens pas à ce que les mauvaises langues se délient. »
Adam ramena l'oreiller sur son visage. Il ne voulait plus rien entendre. Chaque mot de sa sœur lui portait l'estocade. Ce qu'elle lui disait, il se l'était répété 100 fois. Et 100 fois, il n'y avait pas survécu.
« Je vais te faire à manger. » Elle lui caressa le bras, d'une main où la tendresse s'entachait de pitié.
« Conduis-toi en homme. »
Elle se retira dans la cuisine, ne trouva pas grand-chose dans le frigo, et dut se rabattre sur son panier. Elle prépara de la soupe qu'elle porta à son frère.
« Je passerai te voir ce soir. J'aimerais retrouver mon frère, et non son ombre.
Un dernier conseil. Ne cherche pas à noyer ton chagrin dans le vin. Tu coulerais avec. »
Adam écrasa l'oreiller contre son visage, comme pour étouffer un cri.
« Je lui ai toujours été fidèle. »
La sœur accusa un haut le corps. Elle se tourna violemment vers son frère, horrifiée par ce qu'elle venait d'entendre. Sa voix roula dans sa gorge comme une pelote d'épines.
« C'est la fidélité qui empêche les chiens d'être autre chose que des chiens. Fais montre d'un minimum de retenue, s'il te plaît. Un homme qui pleure une garce ne mérite pas d'être mieux traité qu'elle. »
Sur ce, elle lui jeta un dernier regard, chargé cette fois de mépris, et sortit dans la rue, son panier au bras.
Adam sursauta lorsque la porte extérieure claqua. Aussitôt, toutes les misères de la terre redéployèrent leur siège autour de sa solitude. Après cette rupture qu'il a laissée effondrer, Adam abandonne son poste d'instituteur. Son errance dans le pays commence avec ses multiples rencontres de personnages souvent hauts en couleur. On va le retrouver dans un hôpital psychiatrique. Voici son entretien avec le directeur de l'établissement.
« Je suis le professeur Ilyès Ackermann, directeur du centre. »
La tête chenue et le sourire là, l'homme paraissait plus vieux que son âge avec son bleu de chauffe et son air de meneur de grève convalescent. Il invita Adam à s'asseoir sur une chaise. Le bureau aurait tenu dans un mouchoir. Il donnait sur une courette que dominait un platane monumental. Quelques carreaux manquaient à la fenêtre, remplacés par des bouts de toile cirée. Les étagères occupaient les murs, encombrés de cartons, de revues racornies et de bibelots africains. Masquant une paroi décrépie, une carte de l'Algérie mettait en exergue la faune endémique de chaque région, fennec, varan, dromadaire, rapace. Sur la table, derrière laquelle se tenait le professeur, à côté d'un téléphone, reposait un livre. Adam reconnut le sien.
« Comment vous sentez-vous, monsieur Naït Gassem ?»«
Très bien. »«
Vraiment ?
Je vais bien, je vous assure. »
Le professeur n'insista pas.
« Vous êtes instituteur, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur. »
Le professeur montra du pouce le portrait d'un noir au front volontaire qui souriait par-dessus sa tête dans un cadre en bois.
« Vous savez qui c'est ? » Non, monsieur. C'est Franz Fanon.
Ah, j'ai entendu parler de lui. C'était un visionnaire et un grand humaniste. Il nous a beaucoup aidés dans ce centre. Vous devriez le lire.
Il tapota du doigt la couverture du roman posé sur la table.
Nicolas Gogol.
Excellent choix de lecture, monsieur l'instituteur. J'espère que vous vous intéressez aussi à nos écrivains. Nous avons de sacrées pointures. Dib, Zakaria, Senac, Mamery.
J'ai un faible pour la littérature russe. Les âmes mortes est mon livre de chevet. Je l'ai lu une bonne dizaine de fois.
L'étincelle qui fulgura dans les yeux d'Adem n'échappa pas au professeur.
Une bonne dizaine de fois?
Oh, peut-être plus, dit Adem.
Ce roman est un chef-d'œuvre. Chaque fois que je l'ouvre, je fais une découverte.
J'en fais une, moi aussi, chaque fois que j'ouvre ma fenêtre.
Soupçonnant le piège, Adam observa le silence. Si les séances avec le psychiatre s'étaient déroulées dans des conditions encourageantes, la décision finale revenait à l'homme en face de lui.
« Parlez-moi un peu de Gogol, monsieur Naïd Kassem. »«
Oh, c'est un conteur hors pair qui s'est donné aux situations cocasses une portée philosophique. Son verbe est simple et son regard juste. Il est mort jeune, à peine la quarantaine, en 1852 à Moscou, de démence. »
De démence ?
Probablement. Sinon, comment expliquer qu'un esprit aussi éclairé puisse sombrer dans la dévotion outrancière au point de refuser de se faire soigner par les médecins à l'hôpital ?
Le professeur tenta une autre amorce pour décrisper la tension sur le visage d'Adam.
À ma connaissance, il était très ami avec Pouchkine.
Oh, ça n'a pas été le coup de foudre au début.
Gogol avait fait des pieds et des mains pour rencontrer celui qu'il considérait comme son maître. Ce dernier a beaucoup hésité avant d'accepter de le recevoir. Lorsque Gogol s'est présenté devant le domicile de son idole, on lui a claqué la porte au nez.
Adam se frappa la cuisse avec le plat de la main.
On l'a renvoyé comme un malpropre. Ce que Pouchkine a fait est mesquin. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le lire.
La colère d'Adam impressionna le professeur.
Ils ont réussi à être très proches après.
Pouchkine était devenu le mentor de Gogol.
C'est vrai, mais je ne supporte pas que l'on prenne Gogol de haut.
Personne n'est au-dessus de Gogol.
Le directeur tourna et retourna le livre, le feuilleta, parut chercher une page qu'il ne parvint pas à situer.
Que représente pour vous la lecture, monsieur Naïd Kassem ?
Observez les autres derrière un miroir sans teint.
Comme un voyeur ou bien comme un planqué ?
Je n'ai pas compris, monsieur.
Mais vous dites que la lecture vous permet d'observer les autres derrière un miroir sans teint.
Cela voudrait dire que vous êtes caché, que vous observez les gens sans qu'ils le sachent.
Je ne me cache pas.
Mais dans ce cas, pourquoi derrière un miroir sans teint?
Je me méfie des gens, avoua Adam. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous répondre. C'est un sentiment que je ne contrôle pas. C'est ainsi et c'est tout. Les gens, je préfère les voir de loin.
Le professeur se prit le menton entre les doigts, les lèvres en avant.
« Qu'est-ce qui vous angoisse chez les gens ?
Je l'ignore.
Les livres ne vous ont pas suffisamment éclairé ?
Bon, je n'ai pas tout lu.
Vous avez des amis ?
Des collègues de travail, sans plus.
Vous vous entendez avec eux ?
Je ne les fréquente pas.
Pour quelle raison ?
J'ai peut-être tort, mais je suis ainsi. Pas d'amis, pas de soucis. »
Mon père disait, « Si personne ne trouve grâce à tes yeux, sache que c'est toi qui ne vaut pas grand-chose. »
Le mien se taisait tout le temps.
Adam était de plus en plus agacé par la tournure que prenait l'entretien aux allures d'interrogatoire, mais il était conscient de la nécessité pour lui de garder son sang-froid. Il n'aimait pas non plus l'acuité du regard qui semblait le foyer de fond en comble avec l'impudique précision d'une radiographie, mettant à nu ce qu'il s'escrimait à dissimuler. Une appréhension teintée de vexation sourdait en lui. Il s'efforça de la contenir.
Le professeur joignit les mains devant sa bouche, réfléchit avant d'extirper de sa poche un petit peigne qu'il passa dans sa moustache.
Les sourcils froncés, il continua de réfléchir, perdu dans ses pensées.
Et si on laissait de côté la fiction pour interroger un peu la réalité, qu'est-ce qui a dysfonctionné en vous ?
J'ai eu un choc familial auquel je ne m'attendais pas.
Si l'on savait à l'avance à quoi s'attendre, l'existence ne serait que platitude. C'est ce que nous réserve le sort qui nous incite à plus de vigilance.
On a beau être prudent, on n'est jamais à l'abri d'une déconvenue.
Le professeur montra l'arbre colossal dans la cour.
N'est-ce pas un magnifique platane? Il a reçu combien de foudres depuis qu'il est là? Des centaines, des milliers. Pourtant, il est toujours debout. Je ne suis pas un arbre. Mais vous êtes mieux qu'un arbre. Vous êtes un être humain dont la vocation naturelle est de croire dans son étoile lorsque le ciel se dilue dans la nuit. Ne sont-ce pas les épreuves qui forgent les convictions? Adam crispa les mâchoires pour refouler la colère en train de le gagner. Sauf votre respect, monsieur le directeur, j'ai dépassé l'âge de sucer mon pouce. Ces théories, je les ai testées il y a longtemps et elles ne m'ont pas avancé à grand-chose. Je crois savoir que nous sommes entre adultes. Mais ce n'est pas de la condescendance et l'intérêt que je vous porte n'est pas que thérapeutique. J'ai conscience que je m'adresse à une personne instruite et adulte. Et c'est précisément à cet âge que les choses se compliquent et que s'enclenchent les traversées du désert. Il s'agit d'un passage à vide, pas d'une traversée du désert. Il est des passages à vide plus arides que le Ténéré. Et pourquoi persistez-vous à me parler comme si j'étais incapable de comprendre ce qu'il m'arrive? Parce qu'il y a effectivement des choses qui vous échappent. Mon métier consiste à vous les rendre accessibles. Ne soyez pas sur vos gardes, monsieur Nightgassem. Votre susceptibilité n'est que la contraction de vos frustrations. Comme une huître au moindre toucher, elle se referme sur ce qui mine votre âme. Vous devez vous ouvrir afin d'évacuer ce qui vicie votre intérieur. La prière ne rend pas saint. Je sais ce qui ne tourne pas rond chez moi et je m'en accommode. Mais vous n'en avez pas les codes. Le visage d'Adam, tendu depuis qu'il avait franchi la porte du bureau, blêmit davantage, tandis que ses pommettes se mirent à tressauter de nervosité. Il glissa ses poings sous la table pour que le professeur ne voie pas leur tremblement, toussota, respira profondément avant de protester. « Excusez ma franchise, professeur. J'ai un problème et il est de taille. Je ne supporte pas que l'on me fasse la leçon, surtout lorsque celui qui la donne est hors sujet. Je ne suis ni un détraqué, ni un spécimen de je ne sais quoi. Ma présence dans votre centre relève d'un déplorable malentendu. » « On se calme, d'accord ? » l'interrompit le professeur avec autorité. Adam se ressaisit. Il était en train de laisser la susceptibilité lui faire perdre de vue les enjeux de l'instant. Le directeur était seul maître à bord. Il était habilité à lui rendre la liberté, et personne ne serait en mesure de s'opposer à lui s'il décidait de le consigner au pavillon A. « Parlez-moi de ce choc familial, » dit le professeur, conciliant. « Il est derrière moi, désormais, sauf qu'il vous suffit de vous retourner pour l'affronter. Je préfère ne pas en parler. Il le faut, pourtant. Sinon, comment le surmonter ?» Adam considéra ses poings blafards. Il s'entendit débiter d'un ton monocorde, comme s'il se parlait à lui-même. « Je crois que rien n'arrive par hasard, professeur. » Nous attribuons à la fatalité ce que nous n'avons pas le courage d'assumer. Or, il y a explication à tout quand on cherche vraiment. Ma détresse, je l'ai méritée. La malédiction qui s'est abattue sur moi n'est en réalité que... Adam hocha la tête. Sa gorge se contracta lorsqu'il laissa échapper dans un souffle syncopé. J'ai mal agi pour le bien d'une personne que j'aimais beaucoup et que je plaignais tout autant. Je ne pouvais pas savoir à l'époque. Aujourd'hui, je paye pour cette grave erreur d'appréciation. Le choc familial qui m'a jeté à terre n'en est que la sanction. Pouvez-vous développer ? Non, monsieur. J'en ai assez dit comme ça. Comment voulez-vous que je vous aide si vous refusez de coopérer ? Alors, je vous en conjure, monsieur, n'insistez pas. Le professeur contracta les épaules. Il fit pirouetter le peigne entre ses doigts. De nouveau, il se perdit dans ses pensées avant d'en émerger subitement. « Bon, d'accord. On n'est pas au confessionnal, quoique... Merci, monsieur. Puis-je vous poser une question indiscrète ? Bien sûr. Êtes-vous croyant ? Je ne suis qu'un ivrogne. Cela n'a rien à voir. » Adam se détourna pour fuir le regard du professeur. « Mon oncle disait, de la parole est née la foi, et la foi rend sourd celui qui ne sait pas écouter la raison. Ce qui relève de la conviction la plus inébranlable n'est pas toujours toute la vérité. » Le professeur acquiesça. « Je vois. » Il rangea son peigne et posa ses mains à plat sur le bureau. « Vous êtes chez nous depuis un bon bout de temps. Le psychiatre qui vous a examiné n'a rien relevé d'anormal dans votre comportement. Ce qui me chagrine, c'est votre dérive. L'Algérie s'éveille au lendemain qui chante, et vous avez choisi de déchanter. D'après le rapport de la gendarmerie, on vous a trouvé en plein coma éthylique, étendu à 1 mètre de la voie ferrée. Vous auriez pu vous faire déchiqueter par un train. Je ferai plus attention à l'avenir. Quels sont vos projets, une fois rendus à la société? Je n'en ai aucun, à court terme. J'ai besoin de prendre du recul. Je compte m'offrir une année sabbatique. J'ai envie de découvrir cette Algérie qui vient de naître au forceps, changer d'air et me construire à tête reposée. Et pourquoi ne pas rentrer chez vous, tout simplement? Plutôt l'enfer. Adam se mordit la langue à la tranchée, mais trop tard. Son cri lui avait échappé. Le professeur parut peiné par les propos de l'instituteur. Il dit « L'enfer, monsieur Naïd Gassem, n'est pas le crématorium de nos péchés, mais le renoncement à nos rêves. Traquez ce qui vous émerveille, et toutes les fournaises s'estomperont comme des mirages pour vous restituer votre oasis. Si vous voulez un conseil, réintégrez sans tarder votre poste d'enseignant. Les retrouvailles avec vos élèves et vos collègues seraient mieux appropriées à votre équilibre que l'errance. Vous n'êtes pas tout à fait sorti d'affaire. Une rechute n'est jamais loin lorsqu'on s'isole délibérément. » Il poussa le livre en direction d'Adam. « En tous les cas, je n'ai aucune raison de vous garder dans mon établissement. » Il sortit d'un tiroir une enveloppe contenant des billets de banque et des pièces de monnaie, la vida sur la table. « Votre argent. Vérifiez si le compte est bon. J'ignore combien il m'en restait avant d'être admis dans votre centre. » Le professeur se leva. « Vous savez quoi, monsieur Naïd Gassem ? Les hommes vivraient beaucoup moins malheureux et plus longtemps s'ils ne se compliquaient pas l'existence. » Il lui tendit la main. « Vos effets personnels vous attendent chez le major. Prenez soin de vous. D'accord ? Je peux quitter le centre tout de suite ? Vous n'y êtes déjà plus, mon ami. » Adam est un lettré. Grâce au fait qu'il sait lire et écrire, il va sauver une famille de paysans menacés d'expropriation. Il vit chez eux. Au bout de quelque temps, il découvre la beauté de l'épouse. C'est un choc. Le chef de la Casma ramena Adam à la ferme, dans un silence de plomb. Il avait roulé vite, pressé de se débarrasser d'un personnage obtus dont la discourtoisie n'avait d'égal que son ingratitude. Adam trouva un repas sur la table de la bicoque. Il mangea à sa faim, avant de reprendre son livre, son crayon et son cahier. La nuit était tombée. Le vent flûtait dans les interstices des poutrelles. Par la fenêtre, on pouvait voir un mince croissant de lune coincé au milieu des nuages. Adam décida de sortir se dégourdir les jambes. Il claudiqua jusqu'au muret du domaine. Les deux chiens de la ferme coururent le rejoindre, enjoués, espérant recueillir une caresse ou la preuve d'une quelconque affection. Ils battirent aussitôt en retraite en voyant l'homme ramasser des pierres et menacer de les lapider. Après avoir arpenté les vergers, Adam s'arrêta dans l'étable pour se protéger du vent et fumer une cigarette. Une ampoule s'alluma au rez-de-chaussée de la maison en face de lui, puis une silhouette s'imprima sur le rideau masquant la fenêtre. C'était la femme du fermier qui s'apprêtait à prendre un bain. Lorsqu'elle laissa tomber sa robe, une violente onde de choc parcourut Adam, réveillant en sursaut la bête qu'il croyait avoir tuée en lui. Il éteignit sa cigarette et se posta derrière un bâton. Cela faisait une éternité qu'Adam n'avait pas eu sous les yeux le corps nu d'une femme. C'était comme s'il redécouvrait le monde qui ne faisait que traverser en coups de vent, les yeux tournés vers l'intérieur de son crâne, saturé de rancœur et de furie. La gorge aride, Adam était comme hypnotisé. Depuis combien de temps n'avait-il pas serré le corps d'une femme contre le sien? Avait-il suffisamment serré celui de Dalal pour l'empêcher de s'évanouir dans la nature? Il n'en était pas sûr, maintenant que le volcan qui venait d'érupter en lui enflammait jusqu'à ses pensées. Il s'approcha de la fenêtre pour admirer, à travers une mince ouverture dans les rideaux, les seins fermes d'une poitrine parfaite, les jambes glabres aux mollets magnifiques, les hanches sur lesquelles, lui semblait-il, s'étaient appliquées les mains d'un dieu exalté. Le cœur sur le point de rompre, le souffle débridé, Adam n'était plus qu'un tison planté dans un brasier. Soudain,
Adam suspendit ses gestes et se tourna vers la fenêtre. Adam s'accroupit pour se cacher. Adam s'enveloppa hâtivement dans une serviette et écarta un bout du rideau pour regarder dehors. Adam glissa le long du mur et battit en retraite vers la bicoque. Adam fut incapable de s'endormir cette nuit-là. Comment l'aurait-il pu, tendu comme un arc, avec une coulée de lave dans les veines? Il repassait en boucle chaque détail de la nudité de cette femme à qui il n'avait pas daigné accorder la moindre attention jusque-là. Défilait dans sa tête, fesses, seins, mollets, hanches, tantôt entre ses mains fiévreuses, tantôt sous ses lèvres voraces. Adam ne voulait pas que le film s'arrête. La terre s'arrêterait de tourner avec, et tout ce qu'il détestait le rattraperait. Cette nuit-là, il y eut un déclic. Tandis qu'il ruisselait de sueur, le ventre en feu, les membres perclus de crampes, Adam eut brusquement envie de soulever le couvercle sur le puits de ses tourments et de crier dans le vide qu'il était vivant. Et parce qu'il était vivant, il s'adonna sans honte et sans retenue à un exercice intime et solitaire qu'il n'aurait pas imaginé pratiquer à son âge. À midi, Adam trouva l'instituteur en train d'écrire. En réalité, Adam n'écrivait pas. Il était étendu sur le lit, une main sous la ceinture. En entendant arriver la femme du fermier, il s'était mis sur son séant et avait ouvert son cahier. Ada posa le plateau contenant le repas de l'instituteur sur la table. Au moment où elle s'apprêtait à se retirer, Adam lui dit « C'était très bon ». Ada fut frappée par le regard que l'homme posa sur elle. Le voile insaisissable qui le floutait depuis qu'il était arrivé s'était estompé, découvrant deux yeux d'un gris minéral, subitement débarrassés de ce qui les rendait farouches comme ceux des fauves. « Le ragoût d'hier, expliqua l'instituteur, il était très bon. » Ada ne sut quoi dire. Adam comprit qu'il bouleversait quelque chose en elle. Si elle ne l'avait pas identifié hier, dans l'obscurité, sûr qu'elle le soupçonnait d'être le voyeur. Les chiens auraient aboyé et peut-être chargé s'il s'était agi d'un intrus ou d'un maraudeur. « Dites à votre mari que je le remercie pour son hospitalité. Dès que mon genou ira mieux, je partirai. » Elle hocha la tête. « J'espère que ma présence parmi vous ne vous dérange pas. Mon mari se sent moins seul depuis que vous êtes là. »« C'est vrai ?» Elle ne répondit pas. « Et vous ?»« Je ne suis qu'une femme. Ce qui convient à mon mari me convient. » »« Je me sens bien dans cette ferme. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. » Je serais à mon aise si je pouvais me rendre utile. Ada opina. Votre mari a été blessé pendant la guerre de libération. Non, il a perdu ses jambes bien après l'indépendance. Nous venions de nous installer à la ferme. Mon mari est allé chasser dans le maquis avec son cousin. Ils ont marché sur une mine. Son cousin est mort sur le coup. Mais qui a eu une jambe arrachée sur place? L'autre, on la lui a coupée à l'hôpital à cause de la gangrène. « C'est terrible. Ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes marié depuis longtemps ?»« Oui. Je n'ai pas vu d'enfant. » Ada parut très embarrassée par l'indiscrétion de l'homme. Elle se détourna. « Pardon, c'est l'émotion qui me fait dire n'importe quoi, » s'excusa Adam. « Je n'ai pas d'enfant, moi non plus. Mon épouse n'en voulait pas, » mentit-il. Puis il se reprit. « En vérité, c'est de moi qu'elle ne voulait pas. Son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. » C'est la vie. Le mariage est un jeu de hasard. Que l'on mise gros ou peu n'y influe en rien. La roue tourne et s'arrête sur la case de son choix. Adam ne reconnut pas les grelots qui tressautaient dans sa gorge. Il venait de se confier avec une simplicité si naturelle qu'il crut entendre parler quelqu'un d'autre. Ada fixait le sol. Je sais que ce n'est pas correct de parler à une épouse en l'absence de son mari, mais cela fait si longtemps que je n'ai pas échangé un mot avec une femme. On a tous besoin d'une écoute. Vous avez raison, on a tous besoin d'une écoute. Malheureusement, les gens ne sont pas toujours réceptifs. Ce n'est pas par indifférence. Pourquoi alors? Chacun a ses soucis. Adam remarqua que la main de Ada avait relâché son étreinte autour de l'œil de bœuf. Elle gardait les yeux baissés. Cependant, elle ne donnait pas l'impression d'être pressée de prendre congé. Il raconta. « Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Il y avait trop de misère et d'injustice dans mon village. Beaucoup trop. Un matin, je suis parti, sans rien dire à personne. Je ne regrettais rien de ce que je laissais derrière moi. Je regardais droit devant, décidé à devenir quelqu'un d'autre. J'ai enseigné dans une école, et là encore je n'étais pas bien. Je me suis marié, certain, avec une femme à mes côtés, de forcer la main au destin. Mais je n'ai fait que découvrir combien rien ne me réussissait. Un soir, mon épouse a pris sa valise et est sortie de ma vie. Au début, cela m'a démoli, puis j'ai appris à faire avec. Il m'en a fallu du temps et des chemins pour me rendre compte que la femme n'est pas un bien, mais un être à part entière. Si la mienne est partie, ce n'est pas parce que je n'ai pas su la garder, mais parce qu'elle voulait vivre sa vie. Et elle avait raison, on n'a qu'une seule vie. J'ignore ce que je pourchasse si loin de chez moi. La paix, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je l'ai peut-être croisée sur mon chemin, mais comment m'en apercevoir si je ne sais pas à quoi elle ressemble? Mon oncle disait, si une comète heurtait la Terre, elle modifierait toute chose en ce monde, sauf la manie qu'ont les hommes de toujours chercher ailleurs ce qui parfois est à leur portée. Il parlait, parlait, comme si d'un coup il venait de rompre un interminable vœu de silence. Il entendait sa voix se substituer à la pénombre de la pièce, déverser ses échos dans les recoins, revenir s'amplifier dans sa tête. Il avait le sentiment de remonter d'un gouffre, pareil à une entité abyssale rejoignant la lumière, afin de renaître au jour, distillée et plus forte que jamais. Il était si ému par ses confidences qu'il ne s'aperçut pas que Ada était partie en laissant la porte ouverte derrière elle. Plus tard, Adam va tenter de posséder l'épouse du paysan. La nuit avait englouti la campagne. Les vergers évoquaient un monde parallèle que les deux chiens de la ferme hantaient. On devinait leurs silhouettes efflanquées dans l'obscurité, le museau raclant le sol en quête de leurs propres traces. Embusqué derrière la fenêtre, Adam guettait Ada. Cela faisait plus de 2 heures qu'elle aurait dû lui apporter à manger. Il n'avait pas faim. Il voulait la revoir, lui parler, sentir son odeur, acculer son regard, la prendre dans ses bras, quitte à se faire lyncher dans la foulée. Adam n'ignorait pas que dans ces contrées enclavées, la femme était l'armure de son homme et son talon d'Achille, la somme de toutes ses prières et de toutes ses abjurations. Lever les yeux sur l'épouse d'un autre était le plus abominable des outrages. Pousser la témérité jusqu'à tenter de la séduire était un sacrilège qui ne connaissait qu'un seul détergent, le sang. Adam n'en avait cure. Il estimait avoir touché le fond, que sa disgrâce était le pire des châtiments, et que désormais rien ne lui importait plus que cette femme. Elle occupait ses pensées, sa chair et son être. Ada sortit enfin sur la véranda, un plateau entre les mains. Elle avança sur le perron, hésita sur la première marche. « Approche, approche !» la supplia Adam en son fort intérieur. « Ne m'oblige pas à venir te chercher. » Ada regarda derrière elle, parut sur le point de retourner dans la maison. « Non, je t'en conjure, ne fais pas ça. Viens, pour l'amour du ciel, viens !» Les deux chiens s'approchèrent d'elle, elle les chassa. Après une interminable tergiversation, elle marcha vers la bicoque. Adam était certain que Ada ne le rejoindrait pas à l'intérieur, qu'elle laisserait le plateau sur le pas de la porte avant de se retirer sur la pointe des pieds. Lorsqu'il entendit tinter le plateau sur le sol, il ouvrit brusquement la porte, attrapa Ada par le poignet et l'attira dans la pièce. Prise de court, Adam mit un certain temps à réagir. Adam la tenait avec autorité. « Tu n'as rien à craindre, personne ne saura. » Aveuglé par le désir, il la poussa contre le mur et se mit à l'embrasser dans le cou et à laisser courir ses mains fiévreuses sur le corps piégé. S'ensuivit une lutte silencieuse qui fit grincer la table. Suffoquant sous la force tumultueuse qui la broyait, Ada ne contrôlait plus rien. Bien que consciente du vertige en train de permuter les balises du bien et du mal, elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi ce qui menaçait de la souiller ne l'indignait pas. Pourquoi ce qu'elle avait toujours redouté ne l'effrayait plus? Pourquoi les doigts sur son corps, au lieu de l'éteindre dans l'opprobre et le dégoût de soi, l'effeuillaient, l'écossaient, en dévoilant une à une les braises qui sommeillaient en elle? Bouleversée par l'éveil brutal à cette chose à laquelle elle avait cessé de prétendre, Ada était pareille à une phalène que la torche aspire. Dans son esprit, la loyauté et la mutinerie se neutralisaient, plus laminées que galvanisées. Adam était persuadé que Ada avait autant faim que lui. Sinon, elle crierait, grifferait, mordrait et se battrait de toutes ses forces. Or, elle ne criait pas. Ses sourdes protestations n'étaient qu'un simulacre de résistance. Il la sentait renaître à ses instincts, pareil à une terre brûlée qui s'embrase de nouveau sous la cendre. Il redoubla de fougue lorsque les soubresauts dérisoires se mirent à s'espacer sous son emprise. Ada ne savait plus si elle livrait bataille ou si elle se livrait. Elle mesurait nettement l'étendue du péché auquel l'instituteur l'exposait, sauf que la portée de ce péché ne semblait pas dissuader son corps tétanisé de réclamer le chaos. Pendant que son être prenait feu, ses jeunes joies sacrifiées pour que l'honneur soit sauf lui revinrent de plein fouet, avec la violence d'un retour de flamme. Soudain, elle cessa de se contorsionner, et dans une délivrance sauvage, trahissant l'ensemble de ces choses tues qui se rebellaient d'un coup sans crier gare, elle se surprit en train de s'agripper à son tour à son agresseur, de livrer ses lèvres à la bouche vorace qui la dévorait. Défaite et consentante, elle sollicita le coup de grâce. Adam s'enhardit. Il glissa une main triomphante sous la robe. « On ne fait rien de mal, » haletait-il. À l'instant où les doigts de l'homme profanèrent son intimité, Ada écarquilla les yeux, horrifiée et outragée à la fois. « Je suis une femme mariée !» s'écria-t-elle en rabattant sa robe. Elle sortit de la bicoque comme d'un délire, pantelante, épuisée, terrassée. Adam ne toucha pas au plateau. Il éteignit la lanterne dans la pièce et resta près de la fenêtre, à espérer voir revenir Ada. Ada ne revint pas. Couchée à côté de son mari dans un lit qui lui parut aussi vaste et nu qu'un désert de pierre, Ada passa et repassa les doigts sur son corps brûlant d'attouchement. Elle ne savait plus si elle était en train de se consumer sur un brasier ou si elle était le brasier lui-même. Par endroits, elle eut l'impression que sa main et celle de l'instituteur n'en faisaient qu'une, que sa respiration se perdait dans des halètements qui n'étaient pas les siens, que son intégrité se décrispait comme une fleur en train d'éclore. Elle pensa à sa sœur, mariée 2 ans après elle et déjà mère d'un garçon, aux voisines qui partageaient le patio familial là-bas à Sebdou, et qu'elle entendait parfois gémir de plaisir entre les bras de leurs époux, à sa tante qui chaque matin rassemblait autour d'elle les jeunes vierges pour leur raconter avec moult détails ses ébats torrides de la veille. Elle pensa surtout aux premiers mois de sa vie conjugale, quand Meki jouissait précocement en elle avant de lui tourner le dos en la laissant sur sa faim.